Bonjour.
Alors, vous êtes un spécialiste mondialement reconnu des plantes médicinales. Vous êtes d'ailleurs professeur honoraire de différentes universités chinoises, de l'Académie des sciences de Shanghai. C'est rare qu'un Européen soit reconnu dans ses contrées lointaines pour son expertise en matière de phytomédicaments.
Ah, je ne peux pas vous répondre directement, mais le problème, c'est que c'est pas un problème. Mais j'ai formé beaucoup de Chinois qui ont fait des thèses de doctorat sur des plantes chinoises à l'université de Lausanne et ensuite à Genève avec moi. Ils sont devenus professeurs dans leur pays, et puis à ce moment-là, ils ont voulu honorer plutôt leur ancien maître.
Les Chinois, ce sont les premiers à avoir trouvé dans les plantes des moyens de soulager la douleur, ou alors ça remonte bien plus loin encore dans notre histoire?
C'est-à-dire, il y a des textes chinois qui datent de 4000 à 5000 ans en arrière. Ça, c'est clair, mais on a quand même des textes, des papyrus, un papyrus égyptien, le papyrus d'Ebers, qui date de grosso modo 1600 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, ça fait aussi presque aussi longtemps que les Chinois.
Les utilisations à cette époque-là, si on remonte vraiment il y a très longtemps, c'était quoi? C'était des tests, on essayait, on apprenait, on découvrait?
On ne sait pas très bien, mais simplement dans les textes chinois ou aussi dans le papyrus des Perses, on trouve des descriptions de plantes qu'on arrive à reconnaître maintenant, qu'on peut identifier botaniquement d'après les descriptions qu'ils ont données. Évidemment, ils n'ont pas donné le nom latin qui existe maintenant, on a donné les noms latins beaucoup plus tard aux plantes, mais ils expliquaient pour telle ou telle maladie, il faut utiliser la plante de telle manière. Donc, par exemple, dans le texte égyptien, là, c'est bien décrit comment préparer du gel d'aloe, et puis comment l'appliquer, comment l'utiliser, pourquoi l'appliquer, c'est vraiment bien décrit. Et puis en Chine aussi, il y a des plantes chinoises qui, comme le ginkgo biloba, on parle déjà qu'il est bon contre les troubles de la mémoire, enfin des problèmes de ce genre. Il est utilisé à l'heure actuelle pour renforcer le système cognitif.
Alors, c'était des utilisations empiriques, on essayait et on apprenait.
Ben oui, c'était des utilisations purement empiriques, et je crois que depuis que l'homme est sur la Terre, il était surtout préoccupé par la quête de la nourriture, et il a appris peut-être assez dépens à distinguer tout d'abord les plantes toxiques des plantes peut-être comestibles, et ensuite des plantes bénéfiques pour la santé. C'est tout un long processus qui remonte même à l'homme du Néandertal. On a trouvé dans la tombe du Néandertaler, on a trouvé des graines de pavot.
Alors, il y avait la préoccupation de se nourrir, mais il y avait aussi peut-être la deuxième préoccupation, c'était de soulager la douleur. Ça a été une préoccupation qui est née en même temps que l'homme.
Ça a été venu en même temps que l'homme, surtout des douleurs issues aussi, pas seulement par des maladies, mais des douleurs, des blessures issues par des accidents ou surtout par la guerre. Et là, il y a tout plein de plantes qu'on a utilisées. L'utilisation du pavot comme antidouleur, on a découvert plus tard la morphine qui reste l'antidouleur le plus puissant qui existe, eh bien ça remonte à l'époque des Grecs anciens et même plus loin, les Assyriens, Babylone, ils l'utilisaient déjà.
La plante, finalement, c'est ce qui reste un peu une valeur sûre. C'est pour ça que beaucoup de médicaments sont tirés de plantes.
À l'heure actuelle, je dirais qu'énormément de médicaments sont tirés de plantes et de plus en plus, heureusement, peut-être sous la pression des patients qui ont peur de certaines molécules chimiques, bien que dans les plantes, il y a des molécules chimiques aussi, mais on cherche des méthodes naturelles. Enfin, c'est pour ça que la médecine complémentaire est extrêmement importante.
Alors, de certaines plantes, on tire des médicaments, d'autres, on tire des drogues. La nuance est parfois faible parce que les deux servent à un soulagement.
Oui, concernant les drogues, je viens de publier cette année un livre, Les drogues d'origine naturelle. Et si on prend par exemple l'exemple du cannabis, c'est une drogue récréative qui amène certaines personnes à faire des tripes. Et en même temps, le cannabis est une plante antidouleur absolument remarquable, en particulier pour lutter contre les spasmes de la sclérose en plaques et bien d'autres douleurs encore. Donc il y a la limite. Et puis aussi le fameux LSD, qui est une drogue prohibée, Il y a des études en cours à l'université de Bâle maintenant pour lutter contre les gens qui ont l'angoisse de la mort. Enfin, il y a tout plein d'essais maintenant. Les champignons hallucinogènes aussi, la limite entre le bien-être, disons, entre guillemets, que recherchent certains, et le traitement d'une maladie, et c'est très très proche.
Ça veut dire que de manière contrôlée, aucune plante ne serait dangereuse ?
Ah non, ça,
à part les champignons vénéneux, évidemment, je veux dire, il ne faut pas non plus partir trop loin.
Je pense que si on regarde les statistiques du Toxzentrum de Zurich, on voit qu'il y a beaucoup plus d'intoxication par les plantes que par les champignons. Parce que pour les champignons vénéneux, il y a quand même les cercles mycologiques qui font un travail d'information remarquable, tandis que les plantes, souvent, elles sont belles, il y a des beaux fruits. Et puis, on a un nombre incroyable d'intoxications chaque année, des enfants qui vont manger des fruits très toxiques.
Alors, professeur Hochstettmann, le titre de votre conférence est clair, des plantes pour soulager la douleur. Ça veut dire qu'on ne guérit pas avec les plantes, mais on soulage ?
Oui, parce que, disons, ça aurait été trop ambitieux de mettre pour traiter les douleurs. J'ai préféré mettre pour soulager les douleurs.
Maux de tête, douleurs menstruelles, douleurs articulaires, ce sont les principales douleurs qu'on peut soulager avec des plantes.
Oui, il y en a encore d'autres, mais c'est évidemment, beaucoup de personnes sont intéressées pour soulager les douleurs articulaires, et c'est ça peut-être où il y a le plus, où on utilise le plus d'antidouleurs à l'heure actuelle. Et là, historiquement, puisqu'on aime bien parler de l'histoire des plantes, on en a déjà parlé il y a quelques minutes, une plante intéressante, c'est le saule, l'écorce de saule, que Hippocrate préconisait déjà pour lutter contre l'accouchement, pour lutter contre les douleurs de l'accouchement. Les femmes qui accouchaient devaient simplement mâcher de l'écorce de saule. Et une chose intéressante, entre les Grecs à l'époque de Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, et les Amérindiens, il n'y a pas eu de prise de contact, il n'y a pas eu de contact possible. Et quand les premiers Européens sont arrivés en Amérique du Nord, les Indiens, ils utilisaient l'écorce de saule pour lutter contre les douleurs. Et l'écorce de saule, comme vous le savez, a donné finalement lieu à la découverte de l'aspirine.
Alors ces plantes, on va les trouver chez nous, même dans son placard à épices par exemple. Le curcuma, c'est un aliment qui est presque magique.
Oui, alors le curcuma fait partie de la famille du gingembre. C'est une racine qui vient de l'Asie, surtout en Indonésie, en Inde, on l'utilise. C'est le constituant principal du curry, avec d'autres constituants encore. Et le curcuma, c'est une plante presque magique. Il y a des études qui montrent qu'il agit très très bien contre la polyarthrite rhumatoïde. Et il y a des études cliniques qui montrent que ça marche. Et aussi une chose remarquable, beaucoup de gens souffrent de la maladie d'Alzheimer. Je pense que le curcuma peut, à la rigueur, prévenir la maladie d'Alzheimer, simplement parce que il permet de mieux maintenir les fonctions cognitives. Donc le curcuma, c'est une chose importante. Petit conseil, le curcuma a une mauvaise biodisponibilité. C'est-à-dire quand on en mange comme ça, on ne retrouve pas beaucoup de principes actifs qui s'appellent la curcumine dans le plasma. On peut améliorer la disponibilité en le mélangeant avec du poivre, 5% de poivre, comme en médecine ayurvédique, ou prendre le curcuma simplement pendant les repas avec un corps gras, par exemple une cuillère d'huile d'olive. Donc le curcuma, c'est une plante antidouleur vraiment efficace.
Vous avez évoqué la question préventive, c'est-à-dire que, par exemple, du curcuma, on en met un tout petit peu dans tous les plats, et puis on est assuré de petites choses. Ou est-ce qu'il faut quand même le doser précisément ?
Bon, des études montrent qu'il y a beaucoup moins de maladies d'Alzheimer dans les pays où on mange beaucoup de curry, donc du curcuma. Mais il est clair qu'à un moment donné, l'alimentation suffit pas, sauf si on en prend beaucoup, qu'on le prend avec de l'huile, qu'on le prend avec du poivre. Mais sinon, on peut trouver en pharmacie ou en droguerie des gélules avec le principe actif du curcuma, la curcumine, en assez grande quantité. Des études cliniques ont été faites, toujours été faites avec des compléments alimentaires ou des médicaments bien dosés fortement quand même. Hein.
Alors, du curcuma et du poivre pour éloigner la maladie d'Alzheimer, mais bon, plus proche de nous, docteur, il y a l'hiver qui approche. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour booster notre système immunitaire, pour soulager les rhumes, les refroidissements qui vont nous tomber dessus ces prochaines semaines?
Pour booster le système immunitaire, on a toute une série de plantes. Une des mieux connues, c'est l'échinacée, qui est une plante qui nous vient de l'Amérique du Nord. On trouve des préparations d'échinacée dans toutes les pharmacies, toutes les drogueries, mais ça marche bien pour la prévention de la grippe, enfin, etc. Mais il ne faut pas booster le système immunitaire sans arrêt. Donc, on conseille de faire une cure maintenant, de 6 à 8 semaines, avec l'échinacée. Et en Chine, quand il y avait l'épidémie de grippe H1N1, nous, on a fait beaucoup de vaccins qui n'ont servi à rien, heureusement d'ailleurs. Mais en Chine, simplement, on préconisait de prendre du gingembre râpé du gingembre frais, ajouter de l'eau bouillante, filtrée, sucrée avec une cuillère de miel. Et je fais ça depuis que j'étais en Chine, il y a 4-5 ans, quand il y avait cette épidémie au plus. Et je n'ai plus de refroidissement du tout. Je n'ai jamais fait de vaccin contre la grippe, par exemple, moi-même.
Ben, on va se faire une petite cure de gingembre tous ensemble. Et puis je rappelle, professeur Stedman, que vous serez lundi à l'université de Neuchâtel pour la conférence des plantes pour soulager. On mettra tous les détails de cette conférence tout à l'heure sur la page de Format 3. On vous remercie beaucoup de votre participation ce matin. On vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi.